Seigneur, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs ce matin. Donc guide-moi maintenant dans cette étude et fais-nous du bien, je te le prie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc Franck, comme il nous l'a dit, aujourd'hui nous sommes dans Jean chapitre 12, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Jean 12. Ce passage, en fait, assez connu, hein, l'entrée triomphale de Jésus. Alors avant de lire le texte, en fait, je voulais quand même nous rappeler le but de l'évangile de Jean, d'accord? Le but de l'évangile se trouve dans Jean 20 et le verset 31. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ce qui est intéressant, c'est que Jean nous dit que tout ce qui a été écrit dans l'évangile de Jean a un but. Le but, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ, donc le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, donc il est Dieu incarné puisqu'il est de la même nature de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Donc le but, c'est vraiment un discours apologétique qui veut dire qu'il veut nous prouver que Jésus est vraiment le Messie. Et donc, notre texte d'aujourd'hui, l'entrée triomphale de Jésus, a ce but. Ce but de nous prouver que Jésus est vraiment qui il dit qu'il est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, dans l'histoire, beaucoup d'hommes se sont à un moment donné proclamés Messie. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'est pris pour un Messie. Il s'appelle Sabbataï Zvi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars. Il est né en 1626. Natif de Smyrne en Turquie, il s'est consacré à Dieu à l'âge de la raison lorsqu'il était jeune. Et donc, il s'est imprégné d'une connaissance approfondie de la Torah et du Talmud, donc les livres juifs, et surtout de certaines dérivations ésotériques. Et il a découvert un jour dans le calendrier hébreu qu'il est né le même jour de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire le 9 avril. Alors, c'était une sorte de coïncidence troublante pour lui et aussi une révélation exaltante. D'après le kabbaliste, le Messie tant attendu serait né le 9, disait-on. Alors, depuis cette révélation, ce gars qui s'appelle Sabbataï s'enfonce dans la méditation. Il consacre tout son temps à l'étude d'une abondante littérature kabbaliste. Kabbaliste, c'est un petit peu une manière de découvrir des vérités par des chiffres et des numéros, des trucs comme ça. Et donc, il était à la recherche de nouveaux indices soutenant celle qu'il croit être sa seule vocation. Et il pense au retour du peuple juif à sa terre ancestrale sous son égide. Il pensait que c'était lui l'homme de la situation, le Messie. Alors, vainement, son père veut le persuader de prendre une épouse et choisir une femme selon les jeunes filles les plus belles et les plus fortunées de sa communauté. Mais alors, lui, il répète, ma seule épouse, c'est la Torah, point barre. Alors, la rumeur se répand dans la ville parmi les Juifs de Smyrne et des autres villes de Turquie sur les propos et les allusions de ce gars autour de ses rêves messianiques qui amènent le conseil rabbinique à l'interroger. À toutes les questions qui lui sont posées, il répond tout simplement ceci, c'est un mystère divin dont je garde la seule connaissance. Donc il dit, je suis le seul au monde qui sait vraiment que je suis le Messie. Alors il est inspiré, il prédit qu'en 5408 du calendrier juif, année qui correspond à 1648 du calendrier grégorien, que ce serait l'année de la délivrance. Il se donc proclame, tenez-vous bien, il se proclame Messie à l'âge de 22 ans. Il dit, je suis le Messie attendu des Juifs, prédit dans l'Ancien Testament. Alors bien sûr, ça crée un petit peu de trouble quelque part, surtout dans le côté des rabbins, et le certain Beit Din, c'est le tribunal rabbinique, prononce solennellement son excommunication et son expulsion de la ville de Smyrne avec l'approbation des autorités civiles. Donc, il se part, il se réfugie en Thessalonique, où il est accueilli triomphalement. Donc, il a un accueil triomphal, aussi bien par le célèbre cercle des kabbalistes que par une large population de la population juive constituée à l'époque. Et donc, sa réputation et maintenant devient grande dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, même au Proche-Orient, à tel point que nombreux sont ceux qui, partout, sont persuadés qu'il est le Messie invoqué et annoncé depuis la destruction du deuxième temple. Donc, il y a vraiment un mouvement qui croit qu'il est vraiment le Messie. Alors, le retour à la terre des ancêtres est désormais devenu une certitude. Toute proche, un peu partout, les familles entières se préparent en liquidant leurs biens, dont les gens vendent leurs biens en vue du grand rassemblement et la suite. Et au retour, dans chaque destination, dans le Balkan, en Égypte, au Proche-Orient, nombreux sont les adeptes qui mènent campagne pour entraîner les masses populaires à renforcer le mouvement qui accentue son soutien et bien sûr son soutien financier. Parmi les grands ténors, un jeune exalté palestinien qui s'appelle Nathan de Gaza, il parcourt les principales villes de l'Est méditerranéen pour inciter le grand monde à venir tous en Israël et à préparer le grand jour de l'entrée triomphale de sa bétaille à Jérusalem. Tout pointe sur l'entrée de cet homme à Jérusalem. Eh bien, mes amis, c'était un raté total. À son arrivée en automne 1665, les rabbins, après une nouvelle excommunication, le font expulser de la Palestine par les autorités turques. De retour à Smyrne, au milieu d'une foule délirante, la police le contient. Nathan annonce solennellement que sa bétaille se rendra à Constantinople pour essayer de détrôner le sultan et libérer la Palestine. Entre-temps, le mouvement se répand sur toutes les grandes villes d'Europe, de Venise, Amsterdam, Hambourg, Londres, Rome, et afflue en Turquie les délégués les plus nombreux pour participer au grand événement. Donc il est à Constantinople maintenant, et à l'approche du temps prophétique tant attendu le 6 février 1666, sa bétaille et une nombreuse suite de fidèles est à bord un bateau qui est affrété pour les circonstances, pour le retour en Israël. Il entre dans la mer de Marmara et bien avant d'atteindre Constantinople, le bateau est arraisonné par les autorités portuaires. Sa bétaille est aussitôt arrêtée et immédiatement jetée en prison. Alors l'effet est énorme, la consternation succède brutalement à l'enthousiasme qui avait atteint son paroxysme par une grande partie de la population. Le sultan, une fois rassuré contre toute atteinte de son autorité, montre sa magnanimité en donnant une tournure mélodramatique à toute l'histoire. Bien sûr, je lis ce récit. Ayant fait sortir sa bétaille de sa prison peu après, il le fait enfermer aussitôt d'Abydo, surplombant la rive asiatique du détroit de Dardanelles, où il fut installé dans ses conditions de confort et de luxe dignes d'un prince royal, lui laissant en plus le loisir de recevoir tous ceux et les adeptes qui demeuraient encore envoûtés par son aventure. Mais ce ne fut qu'une transition apte à apaiser les esprits. Peu après, sa bétaille est portée devant le sultan qui, sous la menace de la torture, tenez-vous bien, lui fait accepter sa conversion à l'islam. En fait, on lui dit « ou bien tu te convertis, ou bien tu meurs ». Donc, il se convertit à l'islam, aussitôt apaisé, il lui impose un nouveau nom, on lui donne un nouveau nom, Mohamed Effendi, en conformité à sa nouvelle foi, en le nommant le portier personnel du sultan. Eh bien, cette magnanimité n'est pas trop longue durée, finalement tombée en disgrâce, sa bataille est transférée à Constantinople sous force de surveillance et peu après déportée à Dulcinio, petite ville d'Albanie, où, d'après les rumeurs, il finit par mourir dans l'oubli et l'isolement le jour de Kippour 1676, à l'âge de 50 ans. Intéressant. Encore un faux messie. Et il y en a eu tellement de faux messies. Et nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, se proclament Messie. Alors, la question se pose. Moi, j'étais sur Wikipédia. Vous pouvez regarder, hein, l'histoire de ce gars. Alexis de Bruyne est vraiment historique. Wikipédia liste 21 récents messies ou soi-disant messies. Alors, la question que je me pose, moi, c'est qui, finalement, est le vrai messie? C'est une question parfaitement légitime. Et on peut parfaitement comprendre la confusion qui règne autour de nous dans le monde sur qui est le messie, parce qu'il y a tellement de prétendants messies, chaque religion a un prétendant messie. Eh bien, dans notre passage d'aujourd'hui, dans Jean 12, nous avons le récit de l'entrée triomphale à Jérusalem d'un, je dis bien, prétendant messie qui s'appelle Jésus. La question est-il le bon et le vrai messie ou est-il juste un autre faux messie, pas différent que Sabbatai Tzvi? L'entrée triomphale de Jésus, écoutez mes amis, c'est intéressant dans la Bible, hein, qui est le best-seller de tous les temps, est tellement important que non seulement est-il un des 11 événements dans la vie de Jésus qui figure dans les 4 évangiles, parce qu'il y a 4 évangiles, mais dans l'histoire de l'Église, on a mis un dimanche à part, un dimanche de l'année à part, pour commémorer ce jour, le jour de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux, qui est le dernier dimanche avant Pâques. Alors, si l'Église a mis de côté un dimanche pour ce jour, ça doit quand même être quelque chose d'assez important, je me dis. Mais la question est pourquoi ? Qu'est-ce qui est tellement significatif avec cet événement en particulier ? Eh bien, je vous donne la réponse. Parce que l'entrée triomphale de Jésus est le moment où Jésus est pour la première fois proclamé publiquement roi d'Israël. C'est le jour où les foules d'Israël et de Jérusalem, rassemblées pour la grande fête juive de la Pâque, proclament publiquement et collectivement que Jésus est réellement le Messie attendu. Mais en même temps, c'est tout le drame de cette histoire. C'est aussi le jour où le clivage final se crée entre ceux qui le proclament roi et ceux qui le proclament imposteur et qui réclament sa mort. Cinq jours plus tard, attention, on est dans Jean 12, et 12 jusqu'à la fin ne traite que 5 jours de la vie de Jésus. 5 jours plus tard, Jésus sera brutalement cloué sur une croix par ses ennemis. Donc, ce jour-là devient un clivage. Ceux qui disent « oui, Jésus est Messie » et ceux qui disent « non, c'est un imposteur ». Donc, la question que je repose, c'est « Jésus méritait-il une telle entrée triomphale dans Jérusalem ou non ? Était-il, oui ou non, le Messie attendu de l'Ancien Testament, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ?» Et je me suis dit que si oui, on n'a même pas encore regardé le texte, l'intro, tout ça, d'accord ? Si oui, si Jésus est vraiment le Messie tant attendu, alors que cela implique-t-il dans notre vie d'aujourd'hui ? Mieux encore, que cela implique-t-il pour une nouvelle année ? Car aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de la nouvelle année 2021. Eh bien, je pense que la réponse est simple. Et quelque part, je vous donne l'application du message en début de message. Assez rare, d'habitude, on l'applique à la fin. Là, je vous le donne déjà. Je vous donne l'application, ensuite il faut écouter le message, d'accord ? Mais voici l'application du message. Puisque Jésus est réellement le roi des rois et le seigneur des seigneurs, alors nous, comme la foule à Jérusalem ce jour-là, nous lui devons honneur, nous lui devons respect, nous lui devons gloire, nous lui devons adoration, nous lui devons notre vie. Car lui, 5 jours plus tard, a donné sa vie pour nous. Nous devrions nous placer dans cette foule et l'acclamer roi des rois, seigneur des seigneurs, hosanna. Et cela devrait être notre résolution pour cette nouvelle année, de l'adorer et de l'adorer encore et de l'adorer encore. et de lui affirmer notre loyauté pour l'année à venir et chaque année jusqu'au jour de notre gloire où nous mourrons et nous serons avec lui. En revanche, si Jésus n'est pas le Messie, s'il n'est pas le roi des rois et le seigneur des seigneurs, alors il est imposteur, une contrefaçon, un faux prophète, un faux docteur, ce qui veut dire qu'il n'a aucun pouvoir sur nous, il ne peut pas pardonner nos péchés, il ne peut pas nous donner la vie éternelle, il n'est qu'un homme, comme vous et moi, rien de plus. Et si tel est le cas, mes amis, nous devions non seulement le rejeter, mais nous devrions carrément le clouer, si on veut, à une croix, comme imposteur, comme tellement l'ont fait ce jour-là. Car nous serions dans ce cas-là rien d'autre que des dupés. Qu'en est-il donc? Eh bien, pour pouvoir se positionner, il faut en premier comprendre le récit, voir ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem. Donc, je vous invite à retourner 2000 ans en arrière avec moi ce matin. Et puisque l'événement est si important et puisqu'il apparaît dans les quatre évangiles, je vais parcourir ce récit chronologiquement en piochant en fait quand même quelques textes des autres évangiles pour essayer de constituer cette histoire. Et je pense que le résultat va vraiment nous encourager, d'accord? Alors, peut-être avant de commencer, parlons un petit peu du cadre du récit. Prenons le verset Jean 12 et je vais lire. Jean 12 à partir du verset 12 jusqu'à 19. Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches et des palmiers de palmiers et allèrent au devant de lui en citant « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendirent témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens vinrent se dire donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors regarde, ça maintenant, c'est le cadre de l'histoire, d'accord? Verset 12. « Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. » Donc le lendemain, c'est le lendemain. Le jour avant, vous vous rappelez, Marie, sœur de Marthe, avait oint Jésus de parfum de nard de grand prix, une bouteille qu'elle avait qui représentait un an de salaire, elle l'a déversé sur Jésus pour le remercier d'avoir ressuscité son frère Lazare des morts, aussi en vue de son enterrement. On a vu ça la dernière fois. Donc, c'est le jour après, le lendemain, et on apprend au verset 12 qu'une foule nombreuse de gens étaient venus à la fête, donc à Jérusalem. De quelle fête est-il question? La Pâque juive. Notons que nous sommes, j'ai déjà dit, 5 jours avant la mort de Jésus, pour mettre ceci dans le contexte. La Pâque était la fête qui commémorait l'Exode, la délivrance du peuple juif d'Égypte par Moïse. Vous vous rappelez peut-être, dans Exode 12, Dieu allait juger Égypte par la mort de tous les premiers-nés, c'était la dernière des 10 plaies, inclut la mort du fils de Pharaon, lui qui résistait Dieu. Eh bien, pour épargner les Juifs qui habitaient en Égypte, Dieu avait ordonné aux Juifs de tuer un agneau et de répandre le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux des portes de leur maison. Pourquoi? Parce que quand Dieu a envoyé l'ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés, eh bien, lorsque l'ange de la mort a vu le sang répandu sur les portes et les linteaux des portes, eh bien, l'ange s'est dit « Ah ah !» Ici, la mort a déjà eu lieu. Et donc, il a passé au-dessus et il n'a pas tué le premier-né de cette maison-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, l'agneau tué est devenu le substitut de la vraie mort. Au lieu que le premier-né meure, c'était l'agneau symboliquement qui est mort à sa place. Et là, nous comprenons tout de suite pourquoi Jésus a choisi de mourir le jour de la commémoration de cette fête. Car lui, nous dit Jean dans Jean 1,19, était l'agneau parfait de Dieu. Et lui, en tant qu'agneau parfait de Dieu, serait lui aussi sacrifié. Et son sang, symboliquement, j'ai envie de le dire, allait être répandu sur nous, sur nos, les portes de nos vies, d'accord? Les portes de nos vies, comme quoi la mort a déjà frappé cette maison-là, donc la mienne. Mais c'est pas moi qui est mort pour mon péché, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est Jésus, l'agneau parfait de Dieu, qui a pris ma place. Et voilà ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est que moi qui devais mourir pour mon péché, j'ai été épargné la mort parce que Jésus, agneau parfait de Dieu, est mort à ma place. Et voilà pourquoi les Juifs, encore aujourd'hui, dans Exode 12, 14, célèbrent encore toutes les années en sacrifiant un agneau. Mais les Juifs ne font pas le lien avec Jésus. Que les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, comprennent la symbolique du fait que c'est Jésus, l'agneau parfait de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus est mort ce jour-là. Mais il faut savoir, et c'est Barclay, un commentateur qui dit ça, que les pèlerins venaient du monde entier. C'était la fête la plus importante en Israël. Et qu'on estime, alors ça c'est bluffant, à Jérusalem, on sacrifiait 250 000 agneaux. Non, mais ça fait un paquet d'agneaux. Qui veut dire, ils ont estimé, qu'il y a environ 2 millions de pèlerins qui convergeaient sur Jérusalem pour cette fête et les agneaux étaient sacrifiés. Mais alors, incroyable d'imaginer à quoi ressemblait Jérusalem. Alors, revenons au verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse, maintenant on comprend pourquoi, de gens venus à la fête de la Pâque ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ah! Donc là, on apprend au verset 12 que cette immense foule vient, il s'approche de Jérusalem de tous les côtés, mais quelqu'un réalise que Jésus est en train d'y aller aussi. Alors, écoutez, Marc 19, 29 nous précise l'endroit vers la montagne des Oliviers. Donc la montagne des Oliviers est magnifique. Moi j'y suis allé, c'est presque magique, hein. Le mont des Oliviers surplombe la ville de Jérusalem. Beaucoup de photos de touristes est prise de là, et donc elle surplombe la ville de Jérusalem. Entre, il y a la vallée de Kidron qui remonte sur Jérusalem. Donc quand on est sur le mont des Oliviers, on voit Jérusalem et on voit le dôme du rocher aussi aujourd'hui, ce dôme en or qui est musulman aujourd'hui, là à l'emplacement où était à l'époque le temple. Et alors, on apprend que Jésus est là sur le mont des Oliviers, d'accord? Et il descend le mont des Oliviers pour se rendre à Jérusalem. Et alors, la foule, une fois qu'on sait que Jésus est là, Jésus est connu déjà, il avait fait de nombreux miracles. C'est que 5 jours avant sa mort, ça fait 3 ans qu'il est en Israël, qu'il fait tous ces miracles, qu'il est connu. Et alors là, mais alors incroyablement rapidement, la nouvelle se répand dans cette foule que Jésus est là et que Jésus arrive dans Jérusalem. Et alors là, c'est le buzz à Jérusalem. Et voilà où le récit commence maintenant. Parce que ce récit souligne l'importance capitale de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et ce matin, on veut voir tout simplement cette histoire sous trois angles. Trois angles. Premièrement, l'ovation de Jésus. Deuxièmement, les vertus de Jésus. Et troisièmement, les réactions à Jésus. Alors regardons en premier l'ovation à Jésus, verset 13, Jean 12, 13. Ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanne, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Alors, c'est intéressant de voir que la foule acclame Jésus de quatre manières. D'accord? Premièrement, ils prennent des branches de palmier et vont au-devant de lui. Dans Marc 11, 8, passage parallèle, il est dit que les gens étendirent des branches qu'ils avaient coupées dans les champs. Donc, les branches d'arbres et surtout de palmiers étaient une manière d'exprimer son admiration pour quelqu'un. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, d'accord? Mais aussi une manière d'exprimer la joie et le salut. Dans Apocalypse 7, verset 9, je vous lis, il est dit ceci. « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule au ciel, hein, et personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » C'est marrant hein, d'y penser à ça. « Dans le ciel, ils tiennent des palmes dans leurs mains pour adorer l'agneau. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut et à l'agneau. » C'est étonnant, je trouve. Donc, ils prennent des branches de palmiers et vont devant lui. Deux, les gens allèrent au-devant de lui. On peut imaginer les gens. Écoutez, vous voyez que Jésus est là, il y a des milliers de gens autour de vous. Il est en train de descendre et vous dites, « Non, mais moi, je veux le voir. » Donc, vous courez à toute vitesse à l'extérieur pour essayer de vous trouver une bonne place sur le chemin pour être devant lui quand il passe. C'est ce qu'ils font, les gens allèrent au-devant de lui, ils courent à toute vitesse pour être devant lui, pour le voir passer et avec leur palmier. Troisième chose qu'ils font, les gens étendent leurs vêtements sur le chemin. Marc 11:8 dit que beaucoup de gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Donc c'est comme s'ils prenaient leur robe ou je ne sais pas trop quoi, ils la mettaient par terre. En fait, ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de créer un tapis rouge. Sauf qu'il était multicolore, d'accord? Il n'était pas du rouge. Mais là où il allait passer, tac, ils mettaient leurs vêtements pour aligner la route de vêtements. C'était une pratique ancienne pour accueillir les nouveaux rois qui venaient d'être couronnés. Dans 2 Rois 9, alors je vais vous le lire, d'accord? Dans 2 Rois 9, 12a, il est dit ceci. Mais ils répliquèrent, mensonge, est-ce que je suis bien dans le 12? Non, ouais, 9-12-A, d'accord. Mais ils répliquèrent, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé, hein. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu, le roi, au haut des degrés, et ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Donc on voit que c'était une pratique, on mettait ses vêtements comme un sort de tapis rouge pour le roi. C'est exactement ce qu'ils font ici pour Jésus. Et quatrième chose qu'ils font, ils crient leur louange. Chapitre 12, verset 13, « Ils prirent des branches de palmier, ils allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Il est maintenant entouré de milliers de personnes devant et derrière lui, et il crie, Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna, comme on l'a vu tout à l'heure, veut dire sauve maintenant, sauve maintenant. Certes, certains dans la foule comprenaient que Jésus était vraiment le Messie d'Israël, venu pour ôter les péchés, mais d'autres pas. Beaucoup de gens simplement pensaient qu'il était un libérateur politique. Donc, lorsqu'il disait Hosanna, certains voulaient dire, oui, Hosanna, viens nous sauver spirituellement. D'autres disaient, Hosanna, viens nous sauver politiquement. Hein? C'est comme on rentre dans une église aujourd'hui, tout le monde n'est pas nécessairement né de nouveau, tout le monde ne vient pas pour le même mobile d'adorer Dieu, mais ils sont là. Ben, c'est un peu pareil ici, d'accord? Deuxièmement, ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors de nouveau, certains pensaient vraiment que Jésus était le Messie envoyé de Dieu, du Père, afin de sauver les hommes de leurs péchés. On verra dans quelques instants que d'autres pas, mais ils étaient quand même là. Et ensuite, il l'appelle le roi d'Israël. Alors, de nouveau, certains comprennent le fait qu'il est le roi d'Israël, bien sûr, spirituel, tandis que d'autres voulaient le proclamer roi politique. Et c'est intéressant que dans Marc 11, 10, il ajoute « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père ». Alors, c'est intéressant que l'appellation « règne de David » ou « fils de David, notre père », fils de David, vous allez voir, David avait vécu 1000 ans avant, donc c'était très long. Par contre, on appelait Jésus fils de David, qui avait vécu bien des années avant lui. C'était pas son fils direct, c'était l'ancêtre David, d'accord? Eh bien, l'Ancien Testament avait annoncé qu'il fallait que le Messie soit né de la lignée du roi David. Vous pouvez vérifier 2 Samuel 7, 11 à 14. Il fallait que le Messie soit dans la lignée directe du roi David. Donc, ces gens savent que Jésus est de la lignée directe du roi David, et c'est pour ça qu'ils bénissent le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Donc, c'est une manière messianique de dire il est réellement le Messie, puisqu'il est de la lignée de David, de Samuel 7. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la foule ovationne Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le texte nous montre le deuxième angle de cette histoire. Parce qu'on peut toujours se poser la question, ok, ces gens ovationnent Jésus, alléluia, hosanna, mais est-il Jésus? Est-il vraiment le Messie? Comment le savoir? Alors là, mes amis, tenez-vous, pour moi, c'est ma section préférée de ce texte. C'est génial, d'accord? Regardez le verset 14. Verset 14 dit « Jésus trouva un ânon et s'est assis dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Alors, vous savez, quand on lit notre Bible, il faut s'arrêter de temps en temps et réfléchir. Moi, je trouve ces deux versets mais presque bizarres. Pourquoi, dans cette foule, dans ce moment incroyablement énorme, des milliers de gens qui acclament Jésus, est-ce qu'on a besoin de savoir que Jésus est assis sur un ânon? Vous ne trouvez pas ça un détail un peu intéressant? Pas illogique, mais... Pourquoi est-ce que ce détail est là? Écoutez, la parole de Dieu est inspirée, chaque mot. Jésus a dit que chaque virgule est inspirée. Donc, c'est capital que ça soit là. Alors, essayons de comprendre. Et en fait, ce qu'on va découvrir ici, ce deuxième angle de cette histoire, c'est non seulement l'ovation de Jésus, mais deuxièmement, les vertus de Jésus, qui prouvent, en fait, qu'il est le Messie. Alors, où est-ce qu'on en est? Les foules étendent leurs vêtements sur la route, ils étendent des branches de palmiers sur la route, ils crient leur louange à Jésus, ils acclament Jésus comme roi et Messie. La question demeure, l'est-il vraiment? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant. Dans ce récit, il y a quatre détails qui nous montrent de manière limpide et claire que Jésus est clairement le Messie promis. D'accord? Le Fils de Dieu envoyé du Père. D'accord? Et nous voyons ces quatre attributs de Jésus de manière majestueuse. Verset 14. Jésus trouva un ânon, s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Puis ensuite, le verset 15 et 16, ne crains point, fille de Sion, etc. Alors, première chose qu'on voit, c'est que Jésus est omniscient. Il sait tout. Regardez, verset 14. Dit tout simplement que Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Mais il faut se poser la question suivante. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas tout simplement marché comme les autres? Pourquoi a-t-il choisi un ânon et pas un âne? Parce que l'ânon, c'est le petit d'une ânesse. Où a-t-il trouvé l'ânon? À qui appartenait l'ânon? Bref, c'est une question pour moi qui suscite plein de questions. Une phrase qui suscite plein de questions. Bien heureusement qu'il y a quatre évangiles, car c'est Marc, entre autres, qui nous donne les détails plutôt étonnants de cet ânon. En fait, Marc dédie 6 versets de son évangile sur cet ânon. Donc si 6 versets sont dédiés sur l'ânon, je me dis que c'est quand même peut-être important d'avoir 6 versets sur un âne dans la Bible. Pourquoi tant de versets sur l'ânon? Eh bien, je pense que ces versets sont là pour nous montrer l'omniscience, le fait que Jésus sait tout et donc il est Dieu incarné. Et c'est une série impressionnante de prédictions. Donc prenez vos Bibles et allez avec moi à Marc 11. Marc chapitre 11. Tenez-vous bien, c'est génial. Marc 11, verset 1, je lis. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent près de Bethpage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près de la porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Et ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on le laissait aller. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Vous voyez, vous trouvez pas ça absolument incroyable comme verset ? Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Jésus avait apparemment marché jusqu'au mont des Oliviers depuis Béthanie, là où il avait été avec Marthe, Marie et ressuscité Lazare. Il marche jusqu'au mont des Oliviers. Une fois qu'il est en haut des monts des Oliviers, il décide qu'il lui faut un ânon pour faire la suite de la route et descendre dans la vallée de Kidron et remonter à Jérusalem. Alors, notons les détails des instructions données à ses disciples concernant l'ânon. Et il faut se poser la question, comment Jésus savait-il tout ça? Première chose, verset 2, on est dans Marc. Le village en question, allez au village qui est devant vous. Donc, à un moment donné, Jésus dit, ah, dans ce village là-bas, on ne sait pas lequel c'est, allez-y, il est devant vous. Deux. L'emplacement de l'ânon dans le village. Verset 2 encore. Dès que vous serez entré dans le village. Alors, je ne sais pas si ce village en question était comme les villages on voit souvent en Europe, où il y a une sorte de route centrale. On rentre, on traverse le village et on ressort. Souvent en France, il y a un panneau. Vous entrez dans le village, en sortant, c'est le panneau barré. Je ne sais pas si c'était pareil, mais là, dans ce cas, il dit quand vous serez entré dans le village. Donc, au tout début, lorsque le panneau dit « village », là quelque part, pas autre part, là, il y aura quoi ? Un ânon. Alors, 3, quel est le type d'animal trouvé ? Verset 2, il dit « vous trouverez un ânon ». Alors, c'est intéressant. Pas un âne, pas une ânesse, mais un ânon. Alors, un ânon, c'est quoi ? C'est le petit d'une ânesse. Donc, c'est vachement précis quand même, d'accord ? Très spécifique. Mais attention, pas n'importe quel type d'ânon. Il dit, un ânon, verset 2 a beaucoup d'informations, attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Donc, ils vont rentrer dans ce village, voir un ânon attaché, pas libre, attaché, d'accord ? Mais aussi un ânon qui n'avait jamais porté quelqu'un. Alors ça m'a fait penser au truc. Je n'y connais rien aux ânons, ni aux chevaux. Mais je me dis que pour pouvoir monter un ânon, je ne sais pas comment on dit en français, mais il faut le briser. C'est-à-dire que ça s'apprend. Je ne pense pas qu'on peut juste monter sur un ânon et dire « Ah, trop bien les gars, puis on part ». Non, je pense qu'il doit réagir, il n'est pas habitué, il faut peut-être commencer avec une selle, je ne sais pas comment ça se fait. Mais là, c'est intéressant, Jésus va briser cet ânon instantanément, puisque cet ânon n'a jamais porté quelqu'un avant. Donc, il y a un miracle même du brisement instantané et en douceur de cet ânon pour qu'il soit d'accord de porter Jésus. Mais verset 2 nous apprend encore qu'il devait, ses disciples, le détaché, donc l'ânon était attaché, il devait détacher le nœud et amener l'ânon jusqu'à Jésus sur le mont des Oliviers. Alors, on se pose la question, mais qui était le propriétaire de cet ânon? Et comment est-ce qu'il a réagi, le propriétaire? Ben, c'est intéressant, la réponse se trouve au verset 3. Jésus avait anticipé le fait qu'on leur demanderait pourquoi on prenait l'ânon qui n'était pas le leur, parce qu'en fait, ça aurait pu être perçu comme un vol. Donc, au verset 3, si quelqu'un vous dit, Pourquoi faites-vous cela? Jésus anticipe. Il donne la réponse au verset 3. Répondez, le Seigneur en a besoin. Et la réaction immédiate des gens qui vont entendre ça, verset 3, et à l'instant, il les laissera venir ici. Alors, mon épouse et moi, on a une grosse discussion par rapport à ça, parce qu'on essaie de se poser la question, je n'ai pas la réponse, on pourrait peut-être en parler au Zoom, parce qu'il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi est-ce que Jésus dit a dit si? Puisqu'il connaissait tous les détails qui allaient arriver, pourquoi ici, dit-il, il met une sorte d'interrogation, il dit, si quelqu'un vous demande, bon, c'est très bien que quelqu'un va leur demander. Alors, pourquoi a-t-il dit si? Qu'est-ce qu'il essaie de communiquer aux disciples? Je n'ai pas la réponse, on peut en parler tout à l'heure, d'accord? Mais je me demande, lorsque les disciples ont entendu cette instruction de Jésus, ce qu'ils pensaient. Ils se sont dit, mais attends, mais comment est-ce que Jésus sait ces choses? Attends, comment est-ce qu'il connaît tous ces détails? Et moi, si j'avais été eux, j'aurais dit, ah ben j'espère qu'il va me choisir moi, parce que j'ai envie de voir si vraiment les choses vont se passer comme Jésus l'a dit. Ils n'avaient pas de téléphone, c'était pas possible d'avertir et tout faire. Non, c'était vraiment un miracle. Alors moi je me serais dit, ça serait génial d'aller voir si c'était précisément comme Jésus l'avait décrit. Eh bien, l'accomplissement se trouve dans les versets 4 à 7. Regardez, 4 à 7, les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, c'est tellement spécifique, et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient alors là leur dire, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Alors ils répondirent, comme Jésus leur avait dit, le Seigneur en a besoin, et on les laissa aller. Et ils amenèrent l'anneau à Jésus, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, etc. Écoutez mes amis, là nous avons quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous avons, c'est un exemple de l'omniscience de Jésus. Le fait que Jésus sait tout. Il sait tout sur le passé, il sait tout sur le présent. Écoute, il sait tout sur toi, il sait tout sur moi. Tu peux rien cacher à Jésus. Et il sait tout sur l'avenir. Il savait tout sur cet anon, sur la corde, sur le nœud, sur l'emplacement, sur les gens qui viendraient poser la question, sur la réponse. Il savait tout jusqu'au plus petit détail. C'est absolument génial, mes amis. C'est grandiose. C'est l'omniscience de Jésus. C'est ça. Et plein d'exemples comme ça dans la Bible qui prouvent qu'il est nul autre que Dieu incarné. Qui d'autre sait tout? Qui d'autre sait le passé, le présent et le futur? Dieu. Et voilà pourquoi il a été acclamé à Jérusalem, mes amis. Mais il y a un deuxième attribut qui ressort. Il est prophétique. Retournons à Jean 12, c'est intéressant. Jean 12, 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus trouva un anon, on vient de voir cette histoire-là, et s'assit dessus, regardez, selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. T'allez voir, le texte nous dit que Jésus demande qu'on aille chercher l'ânesse pour une raison, et une raison seule, afin d'accomplir une prophétie à son égard, à l'égard du Messie. Selon ce qu'il est écrit, donc là, il cite de mémoire, puisqu'il est Dieu, c'est lui qui a écrit la parole de Dieu, Zacharie 9:9 qui dit, « Dites, les filles de Sion, voici ton roi, viens à toi plein de douceur et monté sur un anon le petit d'une ânesse. » Et donc, il sait très bien dans sa vie qu'il doit accomplir chacune des centaines de prophéties à son égard. Mais ce n'est pas un problème, il est le Messie. Et donc, ce jour-là, sur mon des Oliviers, il dit, ah ouais, le jour est arrivé, Zacharie 9:9. Les gars, allez chercher l'anon, il l'amène, paf, il se met dessus, accompli totalement, Zacharie 9:9. Écoutez, là, ça donne la chair de poule, mes amis. Ça donne la chair de poule. Si vous me posez la question, John, comment est-ce que tu sais que la Bible est vraie? Qu'est-ce qui te prouve la véracité de la parole de Dieu? Je réponds une et une seule chose. Les prophéties qui sont accomplies sont tout simplement époustouflantes. Et en voici une petite, mais elle est accomplie. Une petite, le fait qu'il viendrait sur un âne. Incroyable. Alors, Zacharie 9:9, voici ton roi vient, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et on peut parler de toutes les autres prophéties qu'il accomplit. Le fait qu'il serait né d'une vierge, Ésaïe 7:14, qu'il serait né à Bethléem, Michée 5:2, qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, qu'il serait crucifié, le psaume 22, qu'il serait souffrant, Ésaïe 53, et qu'il serait percé et retour, il reviendrait percé, Zacharie 12, et encore des centaines comme ça. Donc, il est omniscient. 2. Il est prophétique. 3. Il est humble. Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi finalement il est venu sur un ânon à Jérusalem? Mais écoutez, c'est absolument radical. Les rois, ils venaient comment? À cheval. C'était la victoire. Et les chevaux blancs en plus. Il y a une photo de Napoléon qui traverse les Alpes à cheval. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il est monté en âne. Parce que les ânes pouvaient monter, le cheval ne pouvait pas, mais ils voulaient se faire peindre sur un cheval pour se donner ce côté royauté. Pas Jésus. Pas Jésus. Lui, il est venu sur un âne. L'âne était le symbole de l'humilité. Jésus était humble. Jésus est venu pour mourir pour nous. Jésus est venu pour donner sa vie pour nous. Jésus est humble, voilà ce que la prophétie dit. Et donc, pour le montrer visuellement, il est venu sur un âne. Et sur un âne sur lequel aucun homme ne s'est jeté, s'était jamais assis. Pourquoi? Parce que cet âne est devenu maintenant l'instrument d'un geste sacré. Cet âne a amené le Messie attendu à Jérusalem. Et il n'a été utilisé que pour ça. Et quatrième vertu qu'on voit de Jésus, c'est qu'il est doux. C'est qu'il est doux. Encore dans Zacharie 9:9, où il est dit qu'il est doux. Ben oui, un roi doux. Vous savez, les rois aujourd'hui, ils ne sont pas doux. D'habitude, les rois sont durs. Les rois veulent mener. Ils veulent diriger. Ils veulent contrôler. Non, Jésus est un roi, mais il est doux. Il est humble. Il est différent des autres. Il est plein de douceur. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont raté le fait que Jésus était le Messie, parce qu'ils voulaient un libérateur, un libérateur. Non, qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Ben, vous connaissez ces versets dans Matthieu 11, 28. Dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Voilà l'invitation absolument majestueuse. Écoutez ce que Napoléon a dit par rapport à Jésus. C'est intéressant. Je cite Napoléon. « Je connais les hommes. Je vous l'ai dit que Jésus-Christ n'était pas qu'un homme. Entre lui et chaque personne dans ce monde, il n'y a aucune possibilité de comparaison. Alexandre le Grand, César, Charlemagne et moi, nous avons fondé des empires. Mais sur quoi avons-nous basé les créations de notre génie? Sur la force. Jésus-Christ, lui, a fondé son empire sur l'amour. Et cette heure maintenant, des millions d'hommes sont prêts à mourir pour lui. » Ah, écoutez, alors là, mes amis, voilà le roi des rois. Et donc, je termine avec ceci. Troisième point. Les réactions à Jésus. Les réactions à Jésus. Comment est-ce que les gens ont réagi à cette entrée triomphale? Eh bien, écoutez, quatre réactions. Numéro un, il y avait des gens qui étaient confus, verset 16. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Vous savez, c'est pas un mal d'être confus. C'est pas un mal d'être en recherche. C'est pas un mal de se poser des questions, de dire, ouais, je comprends pas. Ils étaient confus, les disciples qui avaient passé 3 ans avec lui. Mais, lorsque Jésus eut été glorifié, une fois qu'il est mort et ressuscité, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Écoute, si t'es confus aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, c'est normal. Mais donc, pose des questions, cherche des réponses. C'est pas un mal d'être confus, c'est un peu normal. Deuxième réaction, les convaincus, verset 17. tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Alors là, c'est les gens qui ont vu la résurrection de Lazare, pas de doute, ils étaient là, ils acclamaient Jésus comme Dieu incarné, le Fils de Dieu, le Messie. Ensuite, il y avait les curieux. Il y avait les curieux. C'est les gens, c'est un petit peu, ils voulaient aller au cirque et voir le show, d'accord? Le 18, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait des miracles. Ouais, trop bien, allons voir le faiseur de miracles, on va aller voir, il va faire encore un miracle génial. Ça, c'est des curieux. Ils ne s'étaient pas intéressés par leur âme. Ils voulaient juste voir le faiseur de miracles. Ils voulaient voir le show au cirque. Et malheureusement, il y avait aussi un quatrième groupe. C'était les incrédules ou les contradicteurs. Verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. » Ils sont jaloux. Ils veulent leur mort. On avait déjà vu ça au chapitre 7, verset 1. Ils veulent sa mort. Et là, ils sont jaloux parce qu'ils rentrent en Jérusalem et des milliers de gens l'acclament. Et ils ne veulent qu'une chose, c'est de se débarrasser de lui. Et ça, ils le feront 5 jours plus tard. Donc, mon ami, voici la question que je te pose. Jésus, est-il le vrai Messie? En fait, qui est le vrai Messie? Sabbatai Tzvi? Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est Jésus de Nazareth? Ou est-ce que c'est un autre de multiples prétendants? Écoutez, moi, je vous donne ma réponse. Sans hésitation. Et j'ai envie de le dire basé sur une chose, et une chose uniquement, les prophéties. Et Jésus est réellement le Fils de Dieu. Donc, deuxième question. T'en es où, toi? Est-ce que t'es confus? Est-ce que t'es convaincu? Est-ce que t'es juste curieux? Ou est-ce que tu es incrédule? Le choix est le tien. Écoute, 2021, moi je prie qu'aujourd'hui, tu deviennes un convaincu. Rendez-vous dans quelques minutes pour un Zoom et on peut discuter de tout ça. À tout de suite.